Vous écoutez On lit pour vous.
Valérie Fontaine dans l'univers d'Émilie Perrault, au cœur d'une mission. Une entrevue réalisée par Valérie Fontaine, parue le 21 octobre 2024 dans Les Libraires. Quand la revue Les Libraires m'a proposé d'écrire cette chronique, mon esprit s'est complètement vidé de ma culture littéraire. Plus aucun nom ne me venait en tête. Comme si les possibilités étaient si vastes, si inaccessibles, que je ne pouvais tout simplement pas envisager d'aller à la rencontre de l'univers d'un auteur que j'admirais. La nuit est tombée. Je me suis couché. Je me suis relevé et, comme mille fois en pyjama, j'ai fouillé dans ma bibliothèque, mais cette fois c'était différent. Je n'étais pas en quête d'une lecture, j'étais en quête d'un rendez-vous précieux. Je n'ai pas cherché longtemps. Émilie Perrault, c'était évident. J'étais allé voir son spectacle, La suspension consentie de l'incrédulité. J'avais lu et relu Faire œuvre utile et Service essentiel. J'adore sa quotidienne à la radio, il restera toujours la culture. Je l'ai choisi. Elle a dit oui. Alors je suis là, devant la porte de son pied-à-terre à Montréal. Je suis stressé, parce qu'une fois l'euphorie calmée, j'ai pris conscience de mon mandat, planifier une entrevue, la diriger, recueillir ses propos, les rendre dans une chronique. Je m'éloignais de ma zone de confort. Mais bon, je me rassure en me répétant qu'elle est vraiment sympathique. Je l'ai déjà rencontrée à quelques reprises et enfin, nous aurons la chance d'approfondir des discussions au lieu de simplement nous croiser. Elle arrive derrière moi, souriante, me fait entrer, en même temps qu'elle, en s'excusant de ne pas avoir eu le temps de ramasser, tout est impeccable, et nous nous installons à la table près de la fenêtre qui laisse passer une magnifique lumière chaude de fin de journée. Cette fenêtre, elle m'en avait parlé lorsque nous avions planifié notre rendez-vous. C'est un bel endroit pour les photos, qu'elle m'avait dit, de sa voix douce, souriante et pleine de lumière, elle aussi. Je commence par lui expliquer pourquoi je suis une grande admiratrice de son travail et j'enchaîne avec ma question principale, celle qui fait que je suis assise devant elle. Sa mission. Je n'invente rien, c'est écrit dans sa fiche de casting. Donner envie au public de consommer la culture sous toutes ses formes. Ça vient d'où? Est-ce que tu en as toujours eu une? Je pense que c'est quelque chose qui s'est vraiment cristallisé autour de faire œuvre utile. Quand le livre est sorti, c'est la première fois où j'ai réalisé « Ça, c'est ma mission ». Tout avait toutefois commencé lorsqu'elle était journaliste culturelle à l'émission de Paul Arcan. Je me suis rendu compte à quel point ce qui me faisait le plus plaisir, c'est quand les gens me remerciaient de leur avoir fait découvrir quelque chose. C'était ma paix. J'aime vraiment les arts et je ne peux pas garder ça pour moi. Tout le monde doit avoir accès à ça. Ce sont les projets qui ont suivi qui m'amènent ici chez elle, car depuis sa mission, on la sent partout et ça m'inspire. Comme elle le nomme, ce n'est pas tout le monde qui en a une. Je le perçois aussi. Pour ma part, toutes mes actions sont orientées vers la mienne. Donner le goût de lire aux enfants et faire entrer les livres dans les maisons. Parfois, je me demande si je manque de légèreté. Si c'est possible pour moi de faire un projet qui n'a pas de sens. Et elle? Elle me parle de son album jeunesse, En rigolo, publié chez Fonfon. Je souris. Lorsque je préparais notre rencontre, j'avais eu l'impression de l'avoir trouvé, son projet qui s'éloigne de son objectif plus sérieux. Celui tout léger, qu'on attrape juste pour rire, ce qui est déjà une bonne raison. Et puis non, je me suis aperçu qu'elle avait superposé des couches de sens dans son histoire sur l'autodérision. Elle acquiesce quand je la taquine avec ça. Je pense que je finis tout le temps, malgré moi, par ajouter des couches. Dans l'album, j'ai réussi à parler des pensionnats autochtones. Même si elle est maintenant autrice, qu'elle monte sur scène, elle refuse encore de se dire artiste. Dans le geste artistique, il doit y avoir une certaine gratuité que je n'ai pas. J'avais envie de communiquer quelque chose sur l'autodérision, mais peut-être que c'est la même affaire. C'est peut-être juste moi qui ai un syndrome d'imposteur parce que je viens de la communication. J'ai l'impression que les artistes ont comme une inspiration divine, qu'il ne faut pas qu'on leur mette de barrières, il ne faut pas qu'on essaie d'en faire un sens, il faut que ce soit juste l'œuvre qui dirige. Je tente de la convaincre du contraire. Mais combien de fois on a dit que les artistes avaient changé la politique, un pays? Oui, mais parce que ça partait vraiment de leur impulsion. Je lui parle de l'intention d'écriture que j'enseignais à mes élèves jadis. On peut écrire pour raconter, donner son opinion. Quelle son intention, c'est d'informer, de faire réfléchir. Je pense à mes livres, mon nouveau roman « Au bord de l'errance », que je souhaite utile pour réfléchir à la crise du logement, mon album « Le grand méchant loup dans ma maison », qui dépeint la violence familiale, sont tous les deux nés de mon besoin de générer des discussions, d'ouvrir les horizons. Est-ce que le geste créateur doit être complètement libre? Qu'est-ce que la gratuité créative? Ces questions m'ébranlent un peu. Et le fameux syndrome de l'imposteur. J'en suis aussi contaminé. Vous écoutez Valérie Fontaine dans l'univers d'Émilie Perrault, au cœur d'une mission, une entrevue réalisée par Valérie Fontaine, parue le 21 octobre 2024 dans les libraires. En la lisant, j'ai remarqué beaucoup d'humilité, des traces du doute aussi un peu partout. Dans l'introduction de « Services essentiels », par exemple, « Qui suis-je pour déterminer la place que doit prendre l'art dans nos vies ?» À quel point le doute t'aide et te nuit dans tes projets? Ça nuit peut-être, mais je n'ai pas envie de changer ça. Elle fait une pause, réfléchit, me parle du patriarcat. Les hommes doutent moins. Plutôt que de dire « il faudrait que nous, les femmes, on arrête de douter », j'aimerais que les hommes doutent plus. Je ne vais pas arrêter, j'aspire à ce qu'il y ait plus de gens qui doutent, comme moi. Cette phrase-là, je sens qu'elle me restera longtemps dans la tête et le cœur. Je dois apprendre à aimer ce flottement inconfortable davantage et, en tant que société, on a besoin de lui plus qu'on ne le croit. Je suis contente de l'entendre parler du patriarcat. Je suis encore sous le choc de son documentaire « La parfaite victime », une enquête cinématographique sur les victimes d'agressions sexuelles. Que penses-tu des impacts du livre pour passer un message en comparaison avec la télé et la radio? Ah, c'est tellement une bonne question. Là, je suis vraiment fier de moi. En ce moment, j'ai une idée. Je me demande si ce sera un podcast ou un livre. Qu'est-ce qui a le plus d'impact? Je n'ai pas de réponse à ça. C'est tellement des façons différentes de dire. Pour la parfaite victime, la loi a changé. Quand le ministre de la Justice t'appelle un matin pour t'annoncer la création d'un tribunal spécialisé, c'est sûr que là, tu n'as pas le choix de te sentir un peu concerné. Faire œuvre utile, le livre, je pense qu'il est pérenne, mais c'est sûr que la série télé, je m'en suis fait beaucoup parler. Pour En rigolo, je suis encore en train de le percevoir. Il y a plein de gens qui me disent « Ah, ça, c'est le livre préféré de mon enfant ». Je ne sais pas quel sera l'impact dans quelques années, c'est plus difficile à mesurer. Ce que j'aime vraiment beaucoup du spectacle, c'est qu'après, je vais rencontrer les gens. On parle. Tandis qu'à la radio, c'est l'intimité, c'est un médium d'habitude. Mais je pense qu'il y a assurément de bons sujets pour chacun des médiums. Je la trouve magnifiquement complète dans sa carrière. Nous sommes chanceux qu'une femme aussi forte et bienveillante soit présente dans les différentes sphères médiatiques. J'imagine que ça engendre un horaire hyper chargé. Comment fait-elle pour trouver le temps d'écrire? Pour ma part, c'est mon occupation principale et je peine souvent à y arriver. Elle me parle de la musique de Flore Laurentienne et de Chandel pour créer une bulle d'écriture, cerner le moment, prendre le temps. Tandis que pour le spectacle, les échéanciers étaient ce qui lui permettait d'avancer. Ça et son conseiller dramaturgique, Jean-Philippe Lehoux. Même si ce ne sont pas les idées qui manquent, elle n'a pas de projet d'écriture concret pour l'instant, toute son attention étant consacrée à sa quotidienne à la radio et à la réécriture de sa pièce dans laquelle elle joue. Seule. J'ai moins l'appel de la fiction. J'avais déjà commencé à écrire quelque chose qui pourrait être un roman, puis rapidement, c'est comme si ça s'éteignait. J'en consomme moins aussi. Je suis une grande consommatrice de documentaires. Le prochain truc de longue haleine que je vais faire, j'aimerais que ce soit un documentaire. J'imagine ta pile à lire en tant qu'animatrice d'une émission littéraire et je panique un peu. Réussis-tu à lire pour le plaisir? C'est sûr que la lecture pour le plaisir, pendant une saison régulière, non, ça n'existe pas. Mais j'ai quand même un mot à dire sur les auteurs que je reçois à l'émission. Ça influence le choix des invités. Parfois, il y a des incontournables qui ne sont pas nécessairement mon genre, mais je vais les lire quand même. Pendant une saison régulière, je fais 3 entrevues d'auteurs par semaine, donc je lis 3 livres par semaine. J'aime mieux lire les livres parce que les entrevues sont meilleures. La bonne nouvelle, c'est que je lis vite. J'ai toujours été une grande lectrice. Quand je suis vraiment dans un livre, je peux être avalée par le livre. J'adore ça. Ce n'est pas lourd pour moi, prendre un livre. Rempli des suggestions de lecture de ses collaborateurs, elle rattrape l'été les lectures qui lui faisaient envie pendant l'année. Elle en profite parfois aussi pour prendre de l'avance. Il y a toute la question de combien de temps d'avance je peux lire les livres. Quand vient le temps de faire une entrevue, il faut que tu t'en rappelles. Maintenant, mes livres, je les surligne. Je ne faisais pas ça avant. J'écris des questions dans la marge. Je ne peux pas prêter ces livres-là, c'est gênant. Arrive le moment de visiter sa bibliothèque. Je me sens privilégié, mais aussi mal à l'aise, d'entrer dans sa chambre, où sa bibliothèque occupe un mur entier. Non, non, entre. J'ai vraiment hâte de te la montrer. Quand elle était petite, la bibliothèque était son safe space. Probablement qu'elle garde encore des traces de cette impression de sécurité, de paix. Parce que lorsqu'elle en parle, sa voix monte dans les aigus, portée par le bonheur. Ma première question, quand je rencontre une nouvelle bibliothèque, est toujours à propos de son classement. Émilie m'explique qu'après avoir tenté le classement par couleur d'épine, elle s'est heurtée à la difficulté de retrouver ses livres. Ils sont maintenant classés par maison d'édition pour mettre en valeur leur facture visuelle. Tout est en ordre. Les livres posés à l'horizontale ou debout bien droit, il est clair que la propriétaire de cet espace a l'œil pour la beauté et l'ordre. Émilie attrape quelques traductions mises de travers qu'elle range ailleurs. Elle énumère les éditeurs en effleurant les livres du bout des doigts. Pas d'ordre alphabétique, par contre, seulement le look. Que ce soit beau. Pas loin, la photo de Caroline Dawson, accrochée au coin du miroir. Émilie me parle de son amie. À quel point elle s'en ennuie. De sa beauté aussi. Ces deux-là ont dû avoir des conversations mémorables. Notre rencontre s'achève. Le soleil de fin de journée est plus bas. Nous jasons de nos vies sur le pas de la porte. C'est déjà terminé. J'ai écrit cette chronique en coupant des dizaines de lignes de propos pertinents que j'aurais aimé laisser sur ces pages. Le syndrome de l'imposteur revient me taquiner le ventre. Je fais lire mes mots à mon amoureux, qui me suggère ensuite de relire le petit bout concernant la leçon que je viens d'apprendre sur le doute. Il a bien raison. Merci, Émilie. C'était Valérie Fontaine dans l'univers d'Émilie Perrault au cœur d'une mission, une entrevue réalisée par Valérie Fontaine, parue le 21 octobre 2024 dans les libraires.
Folie pour Ozempic. Voici les bons et moins bons côtés de ce nouveau médicament. Un texte de Richard Béliveau, paru le 3 avril 2023 dans le Journal de Montréal. Un nouveau médicament génère actuellement beaucoup d'enthousiasme pour le traitement du diabète de type 2. Les pertes de poids engendrées sont importantes, mais il est utopique de croire qu'il pourra à lui seul mettre un terme à l'épidémie d'obésité. Ozempic, ou sémaglutide, est un peptide qui mime biochimiquement l'action d'une hormone produite par le système digestif, soit le GLP-1. Cette hormone augmente de façon très importante la production d'insuline par le pancréas et joue en conséquence un rôle crucial dans le contrôle de la glycémie. Puisque le GLP-1 est inactif chez les personnes atteintes d'un diabète de type 2, on a observé que l'administration de sémaglutide permet de corriger l'hyperglycémie chronique chez ces patients, ce qui a mené à son approbation comme médicament antidiabétique. Effet coupe-faim. En plus de son effet sur la glycémie, une propriété très intéressante du GLP-1 est de diminuer l'appétit en ralentissant la vidange gastrique, ainsi qu'en agissant au niveau de certains circuits neuronaux du cerveau impliqués dans la sensation de satiété. Puisque le sémaglutide mime l'action du GLP-1, cet effet coupe-faim est également observé chez les personnes traitées avec ce médicament. Par exemple, une étude a rapporté que l'administration de sémaglutide à des personnes obèses provoquait une diminution de 24 % de l'apport en énergie durant la journée. Cette baisse de l'apport calorique étant causée par une diminution de l'appétit et des fringales et à une réduction de l'attirance envers les aliments riches en gras. Les effets cliniques réalisés par la suite ont montré que cette diminution de la quantité de calories ingérées était associée à des pertes de poids très importantes à plus long terme. Par exemple, des personnes obèses traitées pendant 68 semaines perdent en moyenne 15 % de leur poids corporel initial, ces pertes atteignant même 20 % chez près de la moitié des participants. Il s'agit de pertes de poids considérables, du même ordre de grandeur que celles typiquement observées à la suite de la chirurgie bariatrique. Pour et contre. Ces données soulèvent l'intéressante possibilité que le sémaglutide pourrait représenter un nouveau traitement pharmacologique contre l'obésité. Cependant, avant de trop s'emballer, il faut tout d'abord considérer le pour et le contre de ce nouveau médicament. Les aspects positifs. 1. Éviter la chirurgie. La magnitude des pertes de poids observées à la suite du traitement avec le sémaglutide suggère que ce médicament pourrait représenter une option de rechange valable à la chirurgie bariatrique, une procédure invasive qui est beaucoup plus risqué et qui ne donne pas toujours les résultats escomptés. Ceci est particulièrement intéressant pour les personnes atteintes d'obésité morbide et qui sont affectées par plusieurs comorbidités, car les pertes de poids de l'ordre de 20 % obtenues par suite du traitement avec le sémaglutide sont suffisantes pour diminuer considérablement le risque de plusieurs pathologies associées à l'obésité. Diabète de type 2, hypertension, stéatose hépatique, accident cardiovasculaire, apnée du sommeil. 2. Retrouver l'équilibre face à la nourriture. C'est la diminution de l'appétit produite par le sémaglutide qui est responsable des pertes de poids obtenues avec ce médicament. ce qui montre à quel point la hausse importante du nombre de personnes en surpoids observée au cours des dernières décennies est causée par une surconsommation de nourriture. Notre cerveau, qui s'est développé au cours de l'évolution pour faire face à des conditions de carence en nourriture, cherche constamment à maximiser l'apport en calories et s'oppose farouchement à toute tentative de perdre du poids. Ces adaptations ont certainement joué un rôle important dans la survie de notre espèce, mais elles deviennent totalement dysfonctionnelles dans un environnement où il y a une surabondance de calories, comme c'est le cas actuellement. Le sémaglutide parvient donc à interférer avec ces adaptations physiologiques et peut donc constituer pour les personnes obèses une forme d'autodéfense biochimique face à l'environnement obésogène dans lequel ils se trouvent. Les aspects négatifs. 1. Effets secondaires. Une proportion assez importante des patients ont rapporté un certain nombre d'effets secondaires, en particulier au niveau gastro-intestinal, nausées, vomissements, diarrhée, constipation. Dans les études cliniques, où les patients sont étroitement supervisés, ces effets indésirables ont découragé un nombre assez restreint de personnes, 5 %. Mais il est probable que dans la vraie vie, sans soutien continu d'une équipe médicale traitante, ce nombre sera plus élevé. Il faut aussi mentionner que les résultats précliniques ont identifié un effet possible du médicament sur la thyroïde. Et on recommande aux patients qui ont un historique familial de cancer médullaire de la thyroïde ou encore un syndrome de néoplasie endocrinienne multiple de type 2, d'éviter ce médicament. 2. Réversibilité des pertes de poids. Les données actuellement disponibles indiquent que l'arrêt du traitement au sémaglutide mène rapidement à un regain de la majorité du poids initialement perdu. Autrement dit, cela suggère que le traitement de l'obésité pourrait être à vie, un peu comme d'autres pathologies comme l'hypertension ou encore l'excès de cholestérol. Ceci est problématique, car d'une part, on ne connaît pas les effets secondaires à long terme de ce médicament, et d'autre part, les coûts associés à ces traitements prolongés seraient faramineux s'ils étaient administrés à grande échelle. On estime que 28 % de la population adulte québécoise est obèse, ce qui correspond à près de 2 millions de personnes. Puisqu'une année de traitement à Ozempic coûte environ 6 000 $ par personne, le traitement de ces personnes coûterait 12 milliards de dollars annuellement, ce qui est évidemment bien au-dessus des moyens financiers de l'État pour cette seule condition clinique. Il faut donc surtout voir Ozempic comme un médicament de dernier recours pour traiter les personnes obèses à très haut risque de complications qui découlent du surpoids, et non comme un antidote à l'épidémie d'obésité actuelle. La solution à cette épidémie réside beaucoup plus dans la prévention et la gestion du poids santé que dans le traitement pharmacologique. En ce sens, il faut absolument tout faire pour endiguer l'obésité chez les enfants et les adolescents. Il est clairement établi qu'il est extrêmement difficile de maigrir une fois que l'obésité s'est installée métaboliquement. Il faut donc intervenir très tôt, avant que les jeunes n'accumulent un excès de poids qui les rend à très haut risque de devenir obèses, une fois rendus à l'âge adulte. Nous pouvons donc déjà constater les conséquences de notre laxisme individuel et sociétal face à une des pires pandémies de l'histoire, celle de l'obésité. C'était Folie pour Ozempic. Voici les bons et moins bons côtés de ce nouveau médicament. Un texte de Richard Béliveau, paru le 3 avril 2023 dans le Journal de Montréal.
La docteure Caroline Kouachtan, de la pandémie à la direction de la santé publique. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 9 octobre 2025 dans Le Devoir. Figure bien connue des Québécois depuis la pandémie de COVID-19, la docteure Caroline Kouachtan entame un nouveau chapitre dans l'œil du public. Depuis le 29 septembre 2025, elle succède au docteur Luc Boileau au poste de directrice nationale de santé publique. Ses priorités tiennent en trois mots: science, transparence et collaboration. Durant la crise sanitaire, la pédiatre microbiologiste infectiologue s'est imposée comme communicatrice scientifique. Il faut s'engager quand il y a des situations difficiles. Si on reste sur les lignes de côté, d'autres prennent la place. Et là, on se dit « je n'aurais pas fait ça comme ça », raconte-t-elle en entrevue au Devoir. La médecin de 53 ans affirme qu'il n'est pas question pour elle de prendre les citoyens de haut. « Je me dis que quand je ne communique pas à des imbéciles. Je considère que les gens à qui je parle sont intelligents et qu'ils sont capables de comprendre si on leur explique correctement. » Aujourd'hui, elle entend bien poursuivre dans cet esprit de respect du public et de clarté. Ces nouvelles fonctions, qui comprennent aussi le poste de sous-ministre adjointe à la prévention et à la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, lui imposent toutefois plus de retenue, dit-elle. C'est certain qu'il y a des choses que je ne pourrais pas dire parce que je n'ai plus la même liberté qu'avant. Mais ça ne m'empêchera pas de dire « voici où on en est et voici le message de la santé publique », ajoute celle qui a notamment été présidente du comité de l'immunisation au Québec. À titre d'exemple, elle évoque le cas du vaccin contre la COVID-19 qui, pour l'instant, ne sera offert gratuitement qu'aux personnes vulnérables ou à risque de complications. Cette décision découle de la fin du financement fédéral annoncé en janvier 2025 qui oblige désormais les provinces à acheter elles-mêmes leurs doses. Il faut expliquer les raisons. Sinon, les gens ont l'impression qu'on leur retire quelque chose à laquelle ils avaient droit. Puis, c'est vrai que s'il y avait eu des ressources infinies, on l'aurait laissé, indique la médecin. Les chantiers de la prévention et du dépistage. Pour son début de mandat, la docteure Kwajtan a notamment comme priorité le déploiement de la Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035, qui vise, entre autres, à intensifier le dépistage de maladies chroniques. Le plan d'action détaillé de la stratégie doit être présenté dans les mois à venir. Il y a énormément de programmes qui peuvent se mettre en place. C'est toute la prévention clinique où on est capable d'aller chercher des gains, par exemple pour les cas de diabète. Il y a toutes ces choses qui sont en réflexion, mentionne-t-elle. Autre dossier chaud, le dépistage du cancer du sein. L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux a recommandé récemment d'ouvrir graduellement le programme aux femmes de 45 à 49 ans. Une tranche d'âge jusqu'ici exclue du dépistage systématique 50 à 74 ans. Le ministère de la Santé et des Services sociaux doit se positionner très prochainement sur le sujet, dit la médecin. Ses équipes étudient actuellement comment mettre en œuvre cet élargissement tout en limitant les impacts négatifs. Si on rajoute du monde au programme et qu'on trouve davantage de mammographies anormales, on ne veut pas avoir un temps d'attente déraisonnable pour avoir accès à l'échographie de résonance et si nécessaire à une biopsie, explique-t-elle. Prêt pour la prochaine pandémie ? La nouvelle directrice nationale veut également renforcer une approche élargie de la santé publique, intégrant l'humain, l'animal et l'environnement. Cette vision est appelée une seule santé. J'ai été drillée à penser plus large que juste l'humain, affirme la docteure Kwajtan. Ces transmissions d'infections vont dans les deux sens. De l'animal à l'humain, mais aussi de l'humain à l'animal, soulève-t-elle. Le Québec est-il mieux préparé à une éventuelle pandémie, d'après elle ? Oui et non, répond la médecin. On est plus près que la dernière fois, mais les choses ne sont pas toutes attachées. Elle souligne à ce titre que certaines recommandations du protecteur du citoyen formulées après la crise sanitaire, visant entre autres à mieux protéger les résidents de CHSLD, n'ont pas encore été implantées. Durant la pandémie, au moins 5000 décès sont survenus dans ces établissements. De façon générale, la docteure Caroline Kwajtan se dit consciente du gros défi qui l'attend aux commandes de la santé publique du Québec. « Je ne prends absolument pas ça à la légère, mais ce qui me porte, c'est que je vois à quel point les équipes sont hyper engagées, qu'elles ont de l'expertise et ont envie d'avancer. Je ne me sens pas seule. » C'était la docteure Caroline Kwajtan de la pandémie à la direction de la santé publique, un texte de Florence Morin-Martel paru le 9 octobre 2025 dans Le Devoir.